I don't wanna play doll. Most of all, won't sip it in a mall. 'Cause I got one life, one life, one easy life. Feels so good, like 32 should. The globe is my dessert, your domestic third. Brace yourself, be nice, be nice, stay nice. But then I think about what you said. It must be getting to my head. The wife, my wife, my pretty wife. I still can't be alone, I gotta build a home. I'm so afraid of death, you can smell it on my breath. In the morning I'm rotten, so rotten, inside. It's just the way you said, it's getting to my head. Clingy little fog, a blessing to be bred. It's trying to ruin my life. But if it's me I'm going to serve, ain't my fault I don't deserve.
Look out, look out, look out, look out. heures de l'après-midi. 14h.
Les 14h.
Le mix de toutes les cultures, c'est sur le
99.1.
Déjà vu, Madame Lancaster.
Have we met?
On se connaît?
Ouais. On se connaît.
Quel putain de bon film!
Mais c'est de la merde!
Bonjour et bienvenue dans Déjà vu, le podcast ciné qui parle des films et de leurs remakes. Peu connu, meilleur que l'original ou carrément inutile, on est là pour en parler et pour trancher lequel est le meilleur. Aujourd'hui autour de cette table, elle passe une journée décidément merdique puisque son pressing lui a rendu des mauvais vêtements trop grands, son chat a essayé de la bouffer et elle a attendu une demi-heure à la porte du studio parce qu'il n'atteignait pas la poignée. Salut Géraldine.
Salut.
C'est une experte en survivalisme. D'ailleurs, elle nous a impressionné il y a même pas 10 minutes en nous faisant une démonstration de clés de bras sur une araignée. 8 clés de bras, pour être plus précis. Salut Mélissa.
Bonjour. Wow. Préparez-vous, hein. Préparez-vous.
Pour l'émission d'aujourd'hui, il a enfilé sa plus belle casquette Playmobil. Il a franchi des flaques d'eau et escaladé des tables basses. Salut Fabien.
Coucou.
Et enfin, on n'a pas de nouvelles de lui depuis qu'il a demandé une bière à sa femme, qu'elle a refusée et qu'il est parti bouder dans le sous-sol. J'espère que... Oh, attendez. Oh, je vois un truc là sur le micro. J'ai l'impression que ça agite tes bras. Maxime, c'est toi ?
Oui, c'est moi !
Ah, bon, bah super. Maxime est là pour l'émission également.
Oui, il n'y a pas de souci. Est-ce que je crie ? Est-ce que je crie assez fort ?
Ça va, ça va.
C'est bien, ça marche.
On fera un petit montage, bon. On mettra un filtre... On va se démerder.
Attends, j'appuie sur le bouton là.
Là, ça va là.
Oh, waouh.
Ah oui. En fait, je suis dans le micro là.
Super. Alors, vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui, on va parler de L'homme qui rétrécit. Alors, un film de Jack Arnold de 1957 et de son remake de Ian Cullen en 2025 avec Jean Dujardin. Donc, L'homme qui rétrécit, à la base, c'est un livre de Richard Matheson sorti en 1956. Donc juste avant le film, c'est lui qui a adapté le scénario pour la version cinéma. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce film avant le remake, avant de préparer l'émission?
Moi, je ne connaissais même pas le cinéma, en fait. J'ai une vraie surprise. Oh, bah, c'est un truc de malade, en fait. Genre, mais il y a des gens à la télé, il y en a qui sont plus petits. Trop bizarre.
Ah oui. Trop bizarre.
Non, sinon, moi, j'avais pas vu non plus. Par contre, j'ai vu les affiches avec Jean Dujardin. Dans le métro.
Wow.
La classe.
Aucune connaissance.
Eh ben, lui, là.
Moi, je pense que je connaissais l'affiche et le concept. C'est le genre de vieille affiche qu'on peut voir dans un peu dans un truc de collectionneur. Ces films-là, mais enfin, comme
avec le chat là.
Ouais, en fait, c'est des trucs qui sont un peu dans la mémoire collective, alors que le film, je l'avais pas vu, quoi, bien entendu.
Et toi ?
Moi, j'avais vu la version originale il y a 13 ans, je crois.
13 ans, 2 jours, 13 minutes.
C'était à la fac.
Et 15, 16, 17 secondes.
Moi, je l'avais vu à la fac et ça m'avait marqué parce que là, en le revoyant, en fait, je me souvenais de la plupart des scènes du film.
Ok.
Alors, qui nous fait un petit résumé de la version originale de Jack Arnold ?
C'est moi ! Enfin, je vais essayer. Un petit résumé, mais pas trop petit non plus.
Orson Welles speaking. I just saw the impossible happen before my astounded eyes. I saw a man grow smaller and smaller day by day. I saw the loneliest and most frightened creature on earth living a nightmare in a world of giants. The incredible shrinking man.
The incredible shrinking man.
Qui rétrécit. Ça commence par un couple qui se détend la nouille sur un petit yacht, symbole de leur réussite professionnelle, personnelle et amoureuse. Pendant ce petit moment à deux, Scott Carey demande une bière à sa femme. Il est en vacances, il aimerait bien se faire servir le coco. Mais elle argumente qu'elle aussi est en vacances. Petite discussion joviale typique. Alors qu'elle accepte finalement, s'il s'engage à préparer le repas du soir, Scott se retrouve entouré d'un nuage, peut-être radioactif. Quelques semaines plus tard, il remarque qu'il perd du poids sans raison. Ses vêtements deviennent trop grands. Encore l'autre qui a mal géré la lessive. Après plusieurs examens, un médecin découvre que Scott a été exposé à une combinaison de radiation et d'insecticides. Un petit mix qu'on connaît bien. Résultat, son corps rétrécit progressivement et on ne pourra pas faire marche arrière. Il continue de diminuer, il perd son travail, son statut, son autonomie. Sa relation avec Louis, sa femme, devient difficile. La maison devient un espace inconnu où les meubles les plus simples deviennent des montagnes à gravir. Il finit par vivre dans la maison de poupée, dans une petite maison de poupée. Mais tout vrille, tout balance,
tout balance.
Lorsque le chat, un simple chat domestique, l'attaque, et sachant que Scott est devenu minuscule, c'est à ses yeux un prédateur terrifiant avec des griffes acérées. Il esquive de justesse, mais se retrouve coincé au sous-sol. Personne ne l'entend. Il est trop petit. Il est désormais coincé dans un environnement sombre, humide et angoissant. Face à... C'est un peu devenu une sorte de survivor, où il doit récupérer des miettes, trouver de l'eau, se défendre contre une araignée géante. À ses yeux, bien sûr. Scott fabrique une arme, affronte l'araignée. Il finit par la tuer après un combat qu'on pourrait qualifier d'intense. Selon...
On pourrait.
Mais qui sonne comme médiocre à tes yeux.
Il continue de rétrécir au point de devenir invisible à l'œil humain. Et il cherche un sens à ce qui lui arrive, à cette métaphore. Est-ce une métaphore d'un homme qui perd sa virilité, une métaphore de la maladie qui le rend invisible aux yeux des autres. Quoi qu'il en ait, il comprend que c'est pas la taille qui compte.
Très belle fin. Très très belle fin.
Très bon résumé.
It's a phenomenon known as déjà vu.
Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce premier visionnage, première version ? Fabien, tu veux commencer ?
Moi, je trouvais ça très chouette. Il y a une vraie vibe pulp, truc avec des gros monstres, genre le chat géant, l'araignée géante. C'est une mygale, donc c'est vraiment ça n'a absolument aucun sens qu'il y ait une migale dans le Kansas. C'est mais c'est super cool. C'est vraiment la grosse araignée typique. Oui, elle est dans une toile, alors que vraiment, j'ai vérifié sur Internet parce que je me suis dit, est-ce que ça fait vraiment des toiles pas du tout.
Vraiment. C'est pas une veuve noire, c'est une migale un peu plus.
Non, les veuves noires, c'est un peu plus petit, ouais. C'est plus des longues pattes. Et
c'est la deuxième migale de déjà vue, hein, après Maïtika.
Ah oui, c'est vrai.
Et en fait, West France est formelle. Hein, donc là, en fait, elle fabrique une toile qui prend la forme d'un tube ou d'une chaussette fermée aux deux extrémités qui s'enfoncent de 5 à 10 cm dans le sol. En fait, la partie qui court à la surface est mimétique, ça fond un peu dans le décor, on dirait des fausses feuilles, etc. Et la migale passe, pour ainsi dire, quasiment sa vie exclusivement dans sa chaussette. Merci West France, parce que juste ça m'a régalé.
C'est une migale de sous-sol aussi, il faut qu'elle s'adapte à son environnement.
Peut-être qu'il y a, peut-être qu'il n'y avait pas la place de tricoter une chaussette, effectivement.
Il n'y a pas de feuilles ici, comment je fais
Merde, comment je fais en plus, c'est du béton. Bon. Mais là, je trouvais ça plutôt chouette. J'ai trouvé la relation du couple vraiment super crédible. Ouais. Le fait que ce soit, grosso modo, un mec moyen, parce qu'ils sont sur un yacht, moi j'ai plus vu ça comme une. Un petit bateau, finalement. Et en fait, ils discutent beaucoup entre eux. Lui, il n'hésite pas à parler quand ça ne va pas. Et je trouve ça super chouette. Mais putain, mais 1957,
c'est
déjà plutôt chouette. Pareil, il devient bizarre. Boum, la presse arrive. J'étais genre, super, ouais, carrément ça, moderne. Cool, ça. Il devient petit et donc du coup un peu hors du commun. Boum, le cirque arrive avec les frics. J'étais genre, trop bien. Plein de thématiques comme ça, super modernes, finalement. Mmh. Et vraiment, finalement, je l'ai trouvé au-delà de ça... Tous les effets spéciaux, vachement réussis en fait. Mmh. Parce que je me suis dit que toutes les parties qui étaient incrustées, où en fait c'est filmé plus grand et lui il est incrusté dessus en tout petit, je me suis dit que ça a dû être fait en grattant la pellicule, ça va être une galère incroyable. Mmh. Et finalement, oui, ça se voit. Il y a certains trucs où on me dit, effectivement, je vois un peu les ficelles, mais finalement ça fonctionne plutôt toujours assez bien. La scène de la bagarre avec le gros chat et la maison, franchement, ça fonctionne très bien. Et du coup, les enjeux sont vraiment là. C'est-à-dire qu'on a vraiment peur pour le héros et tout. Et donc, Moi, j'ai vraiment passé un bon moment. Cool. Le film ne dure pas 2h40 non plus. Donc, pareil, ça, c'est quand même très agréable.
Toujours
aussi.
Un plus.
Donc,
c'est pas réalisé par Scorsese, quoi.
Mais le réalisateur, justement, c'est un réalisateur très prolifique de cette époque-là. Et qui a fait de très bons films de genre. J'en ai noté.
Avec des grosses bébêtes.
Il a fait Tarantula, L'étrange créature du lac noir, Le météore de la nuit pour le côté plus extraterrestre. Donc, au niveau effets spéciaux, créatures, tout ça, il était assez rodé.
Ouais, et ça fait un peu aussi comme bande démo d'effets spéciaux, je trouve. Mais ce qui est cool, on sent qu'ils ont essayé plein de techniques différentes. Mmh. Très inspiré Georges Méliès aussi. Il a fait pas mal de tests sur des perspectives et des incrustations, comme tu disais, Fabien, en grattant la pellicule, tout ça. Et en fait, il y a pas mal d'inspiration de ça. Je pense qu'il y a un peu de fausses perspectives aussi.
Il y a un peu des effets normaux.
Sur des trucs de... Ouais, exactement. De champ contre champ, où ça fonctionne vachement bien.
Je pense qu'il y a eu aussi un gros travail de décor qui fait que les proportions sont travaillées, en fait.
Ça va être un film de décorateur où ils ont dû se régaler, en fait. Tu vas faire des mini-fauteuils et des giga-fauteuils pour que ça ait l'air gigantesque. Ça va être trop bien.
C'est vraiment cool. C'est l'inverse des maquettistes, quoi.
Mais je pense qu'il a dû avoir les deux, du coup, pour qu'elle paraisse plus grande et que lui paraisse minuscule. T'es obligé de jouer sur les deux ordres de grandeur.
Oui. Ouais. Et c'est là où ça vieillit pas trop mal. C'est que, justement, il y a un peu d'effets spéciaux, mais il y a des trucs qui sont un peu, je sais pas, je dirais mécaniques.
Ouais, c'est des effets pratiques, en fait, plus que juste technique visuelle.
Et je trouve ça hyper cool, parce que ça veut dire qu'un film peut traverser les âges aussi sans que ça paraisse trop kitsch.
Alors qu'une salle 3D...
pas 3D, ça.
C'est le roi scorpion.
mais alors qu'il y a des trucs, par exemple, dans le nouveau Frankenstein, qui, si l'année prochaine, sont déjà périmés. Quoi.
Les loups.
Les loups, par exemple.
Ils sont un peu déjà périmés.
Bon, après, la scène où il marche sur les genoux avec des chaussures collées en dessous des genoux.
Ça, t'as pas aimé? Je trouve que ça vieillit pas une seule seconde, quoi. C'est incroyable, on dirait qu'il a atteint de nanisme. Après, il fait le truc avec les bras, c'est d'un côté de l'autre, c'est une danse. Ils amènent le cirque et tout. Une claque visuelle, tout simplement.
Il y a un truc que j'adore dans ce genre de film, c'est que vu qu'il est dans un endroit quotidien, donc chez lui, même si c'est dans le sous-sol, la plupart du film, en fait, on a un rapport de taille assez facile parce que c'est des objets qu'on connaît tous.
Ouais.
Donc il n'y a pas vraiment à expliquer. C'est-à-dire que bah il arrive, il est dans une boîte d'allumettes, tu sais ce que c'est une boîte d'allumettes.
Ouais, ouais.
Même si on nous présente un peu les éléments avant le chat tout ça, tu vois très tôt dans le film.
C'est assez logique, enfin.
Je crois que les jeunes savent ce que c'est.
Ouais. C'est le chat de Tchekhov, d'ailleurs. Le chat de Tchekhov.
Est-ce que les jeunes savent ce que c'est une boîte d'allumettes?
Alors les jeunes.
Avec TikTok, là,
les allumettes, c'est plus récent que le briquet. Ah ouais. Le saviez-vous?
Mais ce qui rend.
Un point technique.
Ce qui rend vraiment l'environnement familier et c'est assez cool. Je trouve, et un peu kiffant de voir un moment, il y a une inondation, et il est sur un crayon à papier, et c'est vraiment une bûche, quoi. Et en fait, bah, toi, dans ton cerveau, tu sais que c'est un crayon qui tient dans une main. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce rapport au petit.
Dans le bouquin, double timeline avec des. Enfin, en fait, on est déjà à la fin, dès le départ du livre, il est en train de se battre, de lutter, et on a des flashbacks sur comment il en est arrivé jusque-là. Et c'est beaucoup de scènes plutôt d'action, de bataille avec l'araignée. Et aussi beaucoup de références au fait que les objets sont décrits et après on comprend ce que c'était en fait. Oui. Donc c'est assez drôle parce que là, la montagne jaune et en fait c'est genre un tas de sable du jardin. Enfin, donc ça c'est pas mal.
Du jardin.
Un tas de sable du jardin.
Un énorme jardin.
Ouais, même sur le décor, en fait, le côté familier, je ressens vachement sur le fait que ça a l'air d'un un vrai sous-sol. C'est-à-dire que tu as des vieux cartons qui traînent dans un coin, tu dis ça se trouve c'est déco de Noël ou peu importe, mais ça a l'air d'être un vrai sous-sol.
Ouais.
Ça sent le truc un peu habité, etc. Et du coup, c'est facile de s'y projeter. Mmh. Je trouve ça cool. Pareil, la tapette, bah, je me dis déjà, j'ai dû faire une tapette géante, ce qui est absolument parfait parce qu'on ne dit jamais que le gars est commissaire de police. Oui. Et finalement, tu fais le bien toi-même, tu vois. Et ça, c'est quand même absolument miraculeux. Et en fait, tout le monde sait à peu près la taille que ça peut faire. Et du coup, l'enjeu, il est incroyable parce que le mec est vraiment minuscule, quoi. Enfin, bref.
Mais moi, ça m'a vraiment fait stresser la tapette à sourire.
Mais grave.
Et en fait, je trouve que ça marche trop bien. La mise en scène, elle est trop.
Ouais, parce qu'en fait, il tire un peu. Enfin, au lieu de dire, bah, je la déclenche direct s'il y avait deux coups de jet, mais non, je vais d'abord tirer sur le truc parce que visiblement, mon cerveau a rétréci à la taille d'une souris. Et là, le gars commence à faire. Du fromage.
Et en fait, il se met à la place du chassé. Mais il a les mêmes réflexes, quoi.
Ouais, il a pris la voix de Mickey. Je peux faire un entendre pas parce que moi j'ai vu la VF, mais du coup, non, pas du tout.
Oh putain! Oh! Un fromage! Quelle chance!
Ah, par contre, c'est vrai que c'est le hack ultime pour la bouffe, quoi. C'est-à-dire, tu rétrécis bah, avec un morceau de fromage. Là, le morceau de fromage, il fait sa taille à la fin.
Carrément.
Une boîte de sucre que tu tiens l'année, quoi.
Hyper économique, finalement.
Bon, par contre, le cholestérol, à mon avis, c'est
un putain de mauvaise intolérance au lacto, c'était choco. Hein. Enfin,
c'est dingue. Comme disent les jeunes.
Et comment
les
tu
jeunes
peux disent digérer ça. Les molécules de beurre ou de gâteau si toi tu rétrécis, tu vois.
Je me dis, tu vois, on n'en est pas là non plus, tu vois. Genre les fourmis mangent des trucs.
Oui,
la dernière fois, la fourmi a mangé un cassoulet, j'ai rien dit, tu vois. Elle fait ça, machin. C'est la reine.
Ça va être dur ce soir.
Après, c'est la reine qui a tout préparé, ils n'avaient pas tellement le choix non plus. Non, c'est la reine, mange, ferme, ne dis rien, mange. Non, c'est pas bon, mais mange. Cannot happen.
So, I guess it's déjà vu all over again. Ce qui était assez marquant aussi dans le film, c'est que les différentes étapes de rétrécissement, en fait, elles paraissent brutales. Genre, il commence à se dire « Ah, peut-être que je rétrécis un peu tout ça ». La scène d'après, il fait la taille d'un gamin, tu le découvres sur le fauteuil, t'es un peu choqué.
Ouais.
Après, il pense que c'est bon, ça s'est calmé, il a arrêté de rétrécir.
Ah oui,
et d'un coup, il se rend compte que non, en fait, ça reprend. Et bah, scène d'après, il est assez petit pour être dans une maison de poupée. Ouais. C'est encore plus choquant.
Il a une aventure, d'ailleurs, non?
Ah oui,
c'est
avec
l'amitié.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se trouvent une sorte d'amitié parce qu'ils ont un point commun. À la différence qu'elle, elle est née comme ça. Donc, en fait, très vite, il se retrouve plus petit qu'elle. Et il y a une sorte de...
Bah, c'est la rupture. Hein.
Bah, c'est la rupture. Alors qu'il a encore sa femme. Hein.
Ouais.
C'est la rupture avec sa maîtresse. C'est, ça crève le cœur.
Ah, mais elle aussi, elle va être plus grande que moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette bonne femme?
Enfin, je m'en trouvais encore plus petite, c'est une galère.
C'est ce qui est aussi intéressant dans le film, c'est qu'en fait, t'as beau être avec lui dans les étapes compliquées, mais t'as toujours ce truc irréductible de...
Oh là là.
Du fait qu'il va continuer à rapetisser. Et en fait, c'est jusqu'à l'infini. Alors, il va en parler un petit peu d'ailleurs dans la voix off, parce qu'il y a une voix off un peu omniprésente. Enfin, surtout sur la fin.
Ouais,
oui, parce que
cool,
sur le premier,
je confonds. C'est surtout sur le deuxième qui est une voix off omniprésente, excusez-moi.
Mais parce qu'il n'y en a pas dans le premier, si.
Si, il y en a une.
À la fin.
Il y en a une, mais elle est plutôt chouette parce qu'elle est. Tu sais, c'est la voix off qui est un peu omnisciente et qui te raconte ça comme si il te racontait le film depuis la fin. Et du coup,
oui,
en fait, elle est apaisée et ça vient servir l'action. C'est-à-dire que quand il est en train d'avoir un truc d'action et qu'on a une voix off. bah ok, très bien, ça sert. Il y a pas, tu sais,
là ça remplace pas.
Voilà, ça complète vachement bien. C'est, on tombe pas sur des écueils où en fait on a la doublette. C'est-à-dire, ouais, bah, j'ai installé une voix off, donc du coup je dois commenter aussi l'action pendant que l'action se fait. Mm-mm. Et du coup dire, bah, en fait non, ça marche pas du tout, quoi.
Ouais.
Bah, là, c'est vraiment de la philo, quoi. Moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout la fin où il arrive à s'échapper de la grille, et il y a tout un truc métaphysique sur le fait qu'il va devenir de plus en plus petit, il va se rapprocher de l'infiniment petit, et en fait en se rapprochant de l'infiniment petit, tu comprends l'infiniment grand. Et
il y a un côté religieux, tu vois, quand il sort, oui, quand il finit par sortir, il est habillé comme Moïse, tu vois. Oui, on clair. Est à une année des 10 commandements, tu vois, ça, enfin, c'est de Cécile Bénouille, ouais, ça fonctionne, ouais, vachement bien. Et du coup, il y a un vrai côté religieux de, bah, en fait, l'éternelle salvation, tu vois, du truc, on sera tous sauvés par Dieu au final si tu te rapproches, si tu l'acceptes dans ton cœur, tu vois. Et c'est vrai qu'on va parler un peu de Jésus.
Je suis venu vous vendre
l'intervention.
Vous êtes des païens. Mais ouais, là, pour le coup, je trouvais ça vachement bien fait et vachement, bah,